Et bienvenue à tous en direct d'Avignon dans la petite école des Ortolans où nous nous sommes repliés pour cause de temps peu clément. Nous sommes toujours au cœur du festival où la grande table d'été passe la semaine. Dès demain, nous retrouverons le musée Calvé où nous serons à nouveau en public. Et aux alentours de 13h30, il sera l'heure d'accueillir Joël Gaillot qui s'entretient tous les jours avec un artiste du off. Aujourd'hui, ce sera Olivier Werner. Puis nous accueillerons les comédiens Laetitia Doche et Jonathan Capdevielle pour un portrait croisé. Mais tout de suite, la table ronde. Nous avions envie de parler de marionnettes. Elles sont très présentes cette année dans le festival sous des formes tellement variées qu'on en vient à douter de la catégorie même de théâtre de marionnettes. Mais ces formes ont en commun un questionnement sur l'humain et le rapport de force entre animé et inanimé sur scène. Pour en parler, Bérangère Van Tussaud, vous mettez en scène l'Institut Benjamin Tal, l'histoire d'un mystérieux établissement pour gens de maison. Célia Houdard et Renaud Herbin, respectivement écrivain et marionnettiste, vous vous produisez autour d'une marionnette à taille humaine dans La vie des formes, qui est présentée dans le cadre des sujets à vif. Et puis Joanie Baird, votre pièce Craft, écrite en collaboration avec Yann Rabalan, poursuit sa tournée ici à Avignon après 360 représentations partout dans le monde, une pièce chorégraphique avec 4 danseurs et une silhouette de papier Craft. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Alors on va commencer tout bêtement par le début, c'est-à-dire par la manière dont la marionnette apparaît sur la scène. Pour vous, Bérangère Van Tussaud, quand on entre dans la salle, c'est très sombre, on voit une silhouette qu'on imagine derrière une table, debout, et qui se révélera en fait être un buste marionnette. Pour vous, Célia Houdard et Renaud Herbin, c'est différent. Quand on entre dans la cour, pour le coup, il fait jour car on est en extérieur. Et le matin, la marionnette est allongée sur le sol. Vous entrez tous les deux et vous venez vous allonger de part et d'autre d'elle. Deux manières de jouer sur la confusion pour les deux. C'était évident pour vous trois, dès le début, que la marionnette devait être installée sur la scène quand le spectateur entrait. Renaud Herbin.
C'est venu dans le travail. En fait, on n'avait pas prémédité ce démarrage, mais c'est vrai que de nous objectiver, de nous rendre objets nous-mêmes était un bon point de départ pour commencer ensemble.
Bérangère Van Tussaud, sur ce début de pièce.
Oui, c'était important qu'elle soit au centre du dispositif et qu'elle se soit la première à prendre la parole, puisque la parole va ensuite se complexifier et circuler entre les acteurs et les marionnettes, mais c'était important pour la clarté du propos que ce soit elle qui ait la première parole.
Mais c'est pas seulement ça, il y a aussi un jeu sur la confusion, c'est-à-dire qu'on croit vraiment que c'est une personne, en l'occurrence.
On croit que c'est une personne parce que les marionnettes avec lesquelles nous travaillons ont la particularité d'être très réalistes. Et c'est vrai que je m'amuse à créer le trouble de cette confusion.
On va y revenir dans le cas de Craft, Joanie Baird, la marionnette, pour le coup, elle n'existe pas au début, c'est même la particularité du spectacle. Il y a 5 personnes qui entrent en scène avec un rouleau de papier Craft, qu'ils déroulent, qu'ils froissent, qu'ils plient, qu'ils tordent, jusqu'à ce qu'ils deviennent justement un personnage, ça fait partie du spectacle. Qu'est-ce qui rendait important à vos yeux que la marionnette se fasse sur scène?
Alors, parce que le point de départ, c'est un texte de Kleist qui s'appelle « Sur le théâtre de marionnettes », qui est un petit texte philosophique assez court. Et on avait envie de jouer avec la fragilité de l'instant présent et donc de partager avec les spectateurs l'idée de la construction éphémère d'un personnage qui est donc construit devant les gens et qui va ensuite dialoguer par le mouvement avec le danseur.
C'est un texte que vous connaissez, j'imagine, le texte de Kleist, tous, vous, ça a l'air absolument évident, Bérangère Van Tussaud, qu'est-ce qui vous inspire ce texte?
Texte référent, mais que finalement on lit au début, puis qu'on met un petit peu de côté, mais je l'ai retrouvé là un peu en travaillant sur l'Institut Benjamin Tal, parce que un des élèves de l'Institut entre dans cette école en disant qu'il veut devenir un beau zéro tout rond. J'ai trouvé que finalement la figure de la marionnette est une sorte de figure idéale de ce zéro tout rond qui à la fois n'est rien et qui en une seconde, une parole, un souffle devient tout.
Célia Houdard, ce texte c'est un texte qui a été écrit sous forme de dialogue qui date de 1810 je crois et qui a vraiment une forme dialoguée. Vous le connaissez, il vous intéresse aussi ce texte?
L'Institut Benjamin Tal.
Le texte de Kleist.
Ah, le texte de Kleist. Oui, c'est un texte splendide, il faut le dire. Hein. C'est dans son propos et aussi dans sa forme. Je trouve que c'est vraiment un texte qui parle de la grâce. Et c'est rare, au contact d'une présence aussi étrange que celle de la marionnette. Voilà, c'est un texte, j'allais dire laïque, sur la grâce.
Alors Bérangère Ventusso, vous le disiez, vos marionnettes sont hyper réalistes, elles ont des perruques, elles ont des traits singuliers qui les différencient, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, elles se multiplient dans le spectacle, mais elles sont toujours différentes les unes des autres, elles ont aussi des costumes qui sont très différents, donc ce qui vous intéresse c'est vraiment de créer des figures réalistes. Renaud Herbin, vous, votre marionnette en l'occurrence, elle est à taille quasi humaine, elle fait à peu près votre taille si je me souviens bien. De ce point de vue, on a l'impression vraiment que le spectacle de marionnettes pose la question essentielle de toute la représentation théâtrale et de l'illusion. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette marionnette à taille humaine, le fait qu'elle soit comme
alors,
vous,
presque alors effectivement, comme vous. Elle me ressemble, elle est à mon échelle, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la façon dont elle a été construite, c'est-à-dire qu'elle contient en elle la potentialité du mouvement. C'est Paolo Duarte, accompagné de Arnaud Louskipan et Michel Ozeré, qui ont construit cette marionnette vraiment dans un aller-retour avec le plateau pour vraiment... collé à mon désir de mouvement, c'est-à-dire le souffle. Bérangère, tu viens d'en parler, ce mot est important, c'est comment la marionnette se met à respirer et comment, effectivement, on construit l'illusion de la vie par cette respiration, par cette colonne d'air, mais aussi par le regard.
Et concrètement, du coup, comment elle est fabriquée, comment elle bouge, cette marionnette?
Ce qui lui donne le mouvement, c'est ses articulations, c'est donc l'espace, tout l'espace qu'elle contient, cette possibilité de mouvement. Avec lequel je joue, et je joue aussi à la bloquer puisque les articulations peuvent se bloquer.
Il y a des sortes de vis ou de leviers.
Voilà, d'écrous qui bloquent ces articulations et qui la fait ressembler plus à une sculpture presque issue de Pompéi, je sais pas.
Monsieur le directeur, quelqu'un souhaite vous parler.
Qu'est-ce que tu veux ?
Je désire être votre élève.
D'où tu viens ? Quel est ton nom ?
Je m'appelle Jacob von Gunten. Je suis d'une excellente famille. Mon père est grand conseiller. Et je lui ai faussé compagnie, de peur que sa perfection ne m'étouffe.
T'as de l'argent sur toi ?
Oui.
En ce cas, donne-le. Vite !
Bérangère Ventusso, vous avez découvert ce texte de Robert Walser qui se passe donc dans une école de domestiques, de gens de maison, qui doivent apprendre à faire des courbettes, à bien accueillir les invités. Et tout de suite, vous avez pensé au rapport à la marionnette. Est-ce que c'était si évident que ça ? Qu'est-ce qui la rendait si évidente ?
Pour moi, ça l'était tout de suite. C'est une question de couple antithétique. Le maître, l'élève, le chef et son inférieur, le dominant, le dominé, le manipulateur, le manipulé. Qui manipule l'autre dans ce couple ? Le couple assez fusionnel entre le marionnettiste et la marionnette. Finalement, qui est mu par l'autre ? Et cette question de qu'est-ce qui nous meut ? Est une question qui traverse, je pense, les spectacles que je fais. Et là, on est allé jusqu'à tenter aussi des séquences où les acteurs sont manipulés par les autres acteurs et où cette question de qu'est-ce qui nous fait bouger, qu'est-ce qui nous entrave ou qu'est-ce qui nous pousse, qui rejoint une question de la liberté, du libre arbitre que pose Walser, à mon avis, dans son roman.
On est vraiment dans la dialectique maître-esclave très classique et ça circule en permanence, c'est-à-dire que vous ne fixez jamais les rapports. Jacob domine parfois son maître, le maître domine parfois ses élèves. Comment vous êtes resté sur cette petite ligne très très délicate entre les deux ?
C'était très important pour moi que la figure de Jacob reste insaisissable. C'est vraiment la sensation que j'ai eue moi en lisant le roman. Et c'est ce qui fait aussi qu'il n'est jamais dogmatique. Et c'est ce qui, pour moi, me touche énormément dans l'écriture de Walser. C'est qu'il arrive à aborder une certaine complexité de la condition humaine sans jamais tomber dans le dogme. Et pour ça, il était important que la figure de Jacob soit une figure toujours instable. Donc pour ça, on l'a fait circuler entre un acteur, deux acteurs, une marionnette, cinq marionnettes, dix marionnettes, quinze, parfois manipulées par une personne, parfois par cinq, qu'on ne puisse jamais totalement la saisir, qu'elle soit tout le temps mise en question.
Joanne Hibert, je vous vois acquiescer. Est-ce que ça fait écho à votre travail ?
Oui, c'est ce que ça m'intéresse aussi, ce qu'a dit Bérangère, mais oui, ça fait écho. Dans Craft, en fait, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est le rapport de ce personnage très éphémère en papier, qui est donc taille humaine, et de voir ces quatre acteurs, qui sont des acteurs qui viennent vraiment du théâtre, qui sont des interprètes, qui manipulent à vue ce corps. Donc, c'est un travail d'écoute, c'est un travail de précision, c'est un travail assez minutieux, qui part de l'acteur, qui part du jeu. Ces quatre corps doivent donner vie et doivent donner un mouvement cohérent et presque une pensée et un souffle à un personnage de papier qui vient d'être construit et qui est différent selon les représentations. Donc c'est vrai que cette idée de voir les acteurs et de voir finalement leur énergie, ce qu'ils donnent à cet instrument qu'est la marionnette, pour moi c'est une chose assez importante, et que le spectateur puisse faire l'aller-retour entre l'illusion, entre la forme et puis l'implication des acteurs. C'est vrai que ce que disait Bérangère tout à l'heure, je me retrouve là-dedans. La marionnette, c'est vraiment un instrument, c'est un objet. On la pose dans un coin et là, vraiment, c'est une boulette de papier quand on le met dans un coin. Autant leurs marionnettes à tous les deux sont beaucoup plus fortes en termes de plasticité. Nous, c'est assumé comme étant un morceau de papier froissé. Et donc, c'est vraiment pour dire que parce qu'il y a l'interprète derrière qui porte haut la précision du mouvement et tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, qui fait que la marionnette a un vrai intérêt et un vrai plaisir, je dirais, théâtral.
Je pensais aussi à la question du rapport de force, parce qu'elle se pose aussi dans votre spectacle, Joanne Hibert. C'est une danse qui se déploie déjà de manière inégale, puisque il y a quatre humains et il y a une seule marionnette. Et puis c'est une danse que vous avez parfois pensée avec Yann Raballan comme une battle, donc cette manière de, en gros, cap pas cap. Hein. Parfois la marionnette est capable de faire des choses que les danseurs ne peuvent pas. À l'inverse, Ça arrive aussi que les danseurs puissent faire quelque chose que la marionnette ne peut pas parce qu'elle est trop souple. Est-ce que pour vous, du coup, la marionnette, c'est aussi une mise à l'épreuve de l'humain sur scène de manière très concrète, du coup ?
Oui, complètement. Il faut quand même dire que Kraft, à la base, c'est une expérimentation. C'est une rencontre avec Yann Raballan, qui est donc chorégraphe. J'avais ce désir de travailler. Je travaillais beaucoup avec des auteurs, donc j'essayais d'écrire avec pour la marionnette et pour des acteurs qui manipulent. Et je m'étais dit, si on écrivait du mouvement. Donc j'ai rencontré Yann, qui est donc chorégraphe. On a eu envie de ce projet ensemble, qui est une petite forme sans prétention, qui dure 35 minutes, qui est une petite bulle toute douce. Et donc, en lisant ce texte de Kleist, qui effectivement est une référence, et puis tout le monde se détache évidemment de ça, mais c'est une petite référence, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça peut donner si on a sur le plateau, effectivement, de manière un peu simple, ce face-à-face entre un corps humain et un corps marionnettique, sur les possibilités, sur la pesanteur, sur toutes ces questions-là. Donc c'est vraiment une petite expérimentation, et puis on a eu la chance, je dois dire, dans ce métier, voilà, c'est toujours compliqué de créer un spectacle et d'avoir la chance de le jouer. On a la chance de pouvoir le reprendre et le continuer, et surtout le retravailler chaque saison. Pour moi, c'est très important, on l'a beaucoup remis en question, on l'a beaucoup modifié, voilà.
Renaud Herbin, vous aussi, c'est une danse que vous entreprenez. Votre spectacle, Célia Oudard et Renaud, est une chorégraphie avec un texte. Et dans cette chorégraphie, bon, c'est pas vraiment une forme de battle pour le coup, mais il y a quand même parfois des moments où c'est vous qui menez la danse, on peut peut-être plutôt dire ça, et parfois on a l'impression que c'est plutôt la marionnette qui mène la danse. Vous vous êtes posé cette question du rapport de force entre vous deux, entre vos deux corps?
Alors moi, je le visualise pas de façon verticale. C'est plutôt un aller-retour, un jeu effectivement de questions-réponses, où je négocie continuellement ma présence au plateau. Je suis pas seul. Alors il y a effectivement le texte de Célia, et puis cette marionnette qui me met en mouvement moi-même. Et on a beaucoup regardé avec Célia des peintures, notamment de la Renaissance, où on a ces corps qui se tiennent et puis qui s'effondrent, qui s'affaissent, qui essaient de se relever, ou qui sont portés, ou qui sont suspendus, et voir comment des qualités de corps peuvent émerger dans la relation à la matière. Et du coup, la marionnette me modifie directement. Oui.
Il y a d'ailleurs des moments de mouvement de la marionnette comme des moments, j'allais dire, d'autonomie et de liberté qui correspondent à des temps d'inertie de sa propre matière, c'est-à-dire la réponse du matériau auquel on insuffle un mouvement et on imprime un mouvement, et puis qui réagissent avec un temps de retard. Et c'est un moment où, en effet, je crois tous les deux, on est spectateur du temps que prend la marionnette à réagir. Et c'est un moment assez vertigineux, c'est fugitif, mais assez centrale, parce que tout d'un coup, on est tous réunis autour, devant elle, à regarder ce qu'elle produit comme geste, et c'est vraiment troublant.
Bérangère Ventusson.
Oui, je voudrais réagir sur le rapport au texte, c'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup plu dans le sujet à vie, c'est aussi comment on se met à projeter sur la marionnette des choses, parce qu'on est en train d'entendre Célia lire quelque chose qui parfois n'a pas de rapport direct avec ce qu'on est en train de voir, et même souvent n'a pas de rapport direct avec ce qu'on est en train de voir. Tout à coup se crée un triangle entre la marionnette, Renaud et le texte de Célia, dans lequel nous, spectateurs, avons la place d'investir notre propre imaginaire, notre propre pensée, et de pouvoir trouver notre place. Et moi, c'est ce qui me donne envie de monter des textes avec la marionnette, parce que c'est une dramaturgie très spécifique qui envisage la place du spectateur d'une manière très particulière et très active, et que je trouve très émouvante.
Oui, il y a quelque chose de très inquiétant, moi, quand j'ai vu votre spectacle. Je dirais pas inquiétant, mais en effet, il y a une fragilité sur scène qui renvoie à quelque chose de très investissant pour le spectateur, parce que par exemple, à la fin, moi, quand j'ai vu le spectacle, à la fin, vous tentez de mettre la marionnette dans une certaine position sur des tréteaux, avec des, alors je sais pas comment ça s'appelle, avec des baguettes de tailles différentes pour essayer de lui faire prendre la pose, et puis ça marche pas forcément, donc ça s'écroule. Et puis c'est la fin du spectacle.
Bah je joue avec ça, effectivement. J'essaie de voir jusqu'où la marionnette se tient toute seule et comment elle accepte ou pas le soutien que je lui propose. Voilà.
Bérangère Ventusso, vous faites de ce texte de Valser quelque chose de très abstrait. Là aussi, il y a quelque chose d'une fragilité. Vous affrontez quelque chose de très abstrait sur scène. Les rapports sont compliqués entre les personnages. Je le disais, ça change tout le temps. Il y a certains événements qui sont totalement mystérieux, qu'on ne comprend pas bien, comme cette fameuse mademoiselle, donc, qui est la sœur du directeur, qui passe, puis qui repasse. Et puis il y a un moment, donc, je ne révélerai pas, mais qui est particulièrement spectaculaire et très étonnant. Est-ce que le fait de faire jouer des marionnettes permet ça, un creusement du texte, une abstraction, Bérangère Ventusso?
Oui, je pense. J'avais envie à la fois que ça puisse être très concret dans le jeu, c'est-à-dire dans la manière dont j'ai dirigé les acteurs. Je les ai toujours invités à être très très concrets dans leur manière de jouer, parce que je sais que la forme, par ailleurs, porte une certaine abstraction. Du coup, je cherche un équilibre qui fait que le spectateur doit sans doute un peu lâcher prise, sans non plus chercher à ce qu'il soit complètement perdu, parce que la question du sens me préoccupe énormément. Donc ça a été un équilibre qu'on a cherché tout le temps, entre un rapport très concret au texte, tout en prenant en charge très fortement la langue de Valser, qui est une langue très littéraire, très belle, qui moi me touche beaucoup, qui est assez complexe. Voilà, c'était cet équilibre à trouver entre les personnages incarnés uniquement par des acteurs, les personnages qui oscillent en permanence entre la marionnette et le marionnettiste, et puis la langue de Valser.
Renaud Herbin, ça me fait penser à autre chose que vous avez dit quelque part, qui est que la marionnette est un art de la concision. Qu'est-ce que vous entendez par là, par rapport à un autre type peut-être de théâtre ou de représentation ?
Ben, je crois qu'il y a une immédiateté, effectivement, une saisissante dans le phénomène d'animation et dans le devenir vivant d'une matière inerte. Voilà, je pense que cette immédiateté-là nous permet, dans des écritures, d'aller extrêmement vite, à l'essentiel, probablement. Et je pense que le format, d'ailleurs, du sujet à vif nous convient parfaitement. 30 minutes, c'est très bien.
Comment vous l'avez travaillé, d'ailleurs ? Est-ce que vous connaissiez avant ? Pas du tout. Est-ce que vous avez vraiment joué le jeu de la rencontre et de la création à partir de rien ? Célia Houda.
On se connaissait un petit peu, mais de très longue date, mais sans, on s'était pas revu depuis un long moment. Donc il y a vraiment quelque chose du mariage forcé mais heureux en l'occurrence. Et c'est vrai que, alors comment on a travaillé ? Je sais qu'on s'est montré beaucoup d'images, on s'est fait part de nos rêveries et certaines communes autour des pierres, notamment de l'intérêt pour cet endroit de l'échelle des êtres et du vivant, c'est-à-dire qu'on voulait accueillir dans cette forme justement les minéraux, les pierres de rêve, une espèce d'éventail assez large du vivant pour réinscrire la question de l'humain dans une chose presque plus large que l'humain lui-même. J'ai écrit assez vite, comme peut-être pour me rassurer, montrer ou pour apporter mes propres matériaux face à une marionnette qui allait être en construction. Il fallait aussi que j'aie mes propres matériaux déjà un peu façonnés pour démarrer. Et puis on a continué comme ça. Et puis on a vraiment travaillé 3 semaines une fois que la marionnette a été élaborée, beaucoup sous le regard de Renaud. Et là, j'ai façonné de nouveaux textes un peu sur mesure. Et puis j'en ai supprimé certains qui, j'allais dire, étaient passés dans le mouvement ou dans nos présences ou dans le mannequin lui-même et voilà, et ce sans douleur du tout, je parce que c'était comme un élément qui était passé ailleurs.
C'est ce caractère minéral dans ce lieu-là, il est assez prégnant dès le début en fait du spectacle, parce qu'on est dans un lieu qui est en effet très minéral, puisque c'est de la pierre partout, on est vraiment entouré, c'est une cour, mais il y a aussi énormément de vignes vierges. Comment vous avez joué avec le lieu, avec le végétal, avec un endroit qui bruisse, qui est très sonore, il y a des oiseaux, il y a Renaud Herbin.
Alors quand on a travaillé en studio, donc on n'avait pas tout ça, mais on le savait que ceci nous attendait. Et on était très heureux le premier jour, enfin on était très inquiets parce qu'on savait pas si ça allait marcher, mais quand on a découvert le lieu, voilà, vraiment, et qu'on y a mis la marionnette et qu'on y a entendu voilà, ce que dit Célia et la musique, c'était extrêmement important. Voilà, de voir comment finalement ce qui est dit dans le texte, cette présence de la matière, cette existence de la matière se prolonger dans l'espace lui-même. Voilà. Et effectivement, des jours comme aujourd'hui, quand il y a du vent, le spectacle est un peu plus long parce qu'on laisse le vent aussi donner sa partition.
Et la musique de Sébastien Roux aussi, on avait pressenti qu'il y a quelque chose comme un petit battement minéral compris dans cette musique. Peut-être pourrais-je déployer idéalement dans ce lieu.
Joanne Hibert, vous, votre spectacle est un spectacle sans parole, mais musical. D'où vient la musique et comment vous l'avez travaillé avec la chorégraphie ?
Alors, j'ai créé ce spectacle, j'avais 26 ans au départ, en compagnie. J'avais très peu de moyens et donc je voulais à ce moment-là faire composer de la musique et j'avais pas les moyens, tout simplement, à ce moment-là. Donc, on avait pioché des morceaux de ci, de là, qui nous semblaient justes et cohérents par rapport au spectacle. Et puis, ensuite, quand on a pu reprendre le spectacle, on a fait composer la musique par Thomas Quinard, qui a vraiment écrit de manière très libre, avec les silences et les parties musicales, selon ce que lui sentait juste par rapport au projet. Alors évidemment, il y a le son du papier qui est là, qui est présent, le son du personnage lui-même. Mais tout ça, c'est écrit de manière très libre, une fois que la pièce était déjà créée.
Célia Oudard, vous avez accepté de lire un extrait du texte que vous dites sur scène. On vous écoute.
Enfant, je détestais les poupées, mais j'étais entourée de marionnettes dont j'aimais la compagnie. Mes parents sont marionnettistes. La présence des marionnettes allait de soi et s'inscrivait dans le cours des choses. Elles pouvaient être en bois, en métal, en mousse, en résine, en altuglace. Ces marionnettes étaient pour moi indissociablement liées à l'atelier, l'endroit de leur construction, réparation ou ajustement. Je rêvais dans l'atelier plus que dans la salle de spectacle. J'y bricolais moi-même, ciseaux, papier canson, colle à eau, râpe, clous, colle à bois. L'atelier est un espace qui m'est familier et que j'ai recherché souvent à différents moments de ma vie. Je l'ai pratiqué assez longuement à Carrare, en Italie, lorsque j'avais 24 ans, et que j'avais décidé de me consacrer à la sculpture, plus exactement à la taille directe.
Célia Oudard, quel type de marionnettiste étaient vos parents ?
Alors, ce sont toujours des marionnettistes qui, je crois, ont été un peu touche-à-tout. C'est-à-dire qu'ils ont, à travers les rencontres qu'ils ont faites de plasticiens, explorer différentes techniques, différents matériaux. Je crois que la rencontre avec, tout d'abord ici, d'ailleurs, le Bread and Puppet a été une chose déclencheur pour eux. Il y a vraiment, je ferai un avant et un après. Et puis, la rencontre du théâtre oriental et, je crois, du bunraku japonais, une distanciation plus nette, une place de narrateur qui était prise en charge par ma mère, qui était récitante, qui a trouvé sa place alors qu'elle a une formation de comédienne. Voilà. Comme une progression très, on peut dire, expérimentale, jusqu'à maintenant, de formes plus petites, avec lesquelles ils ont évolué. Donc c'est beaucoup des rencontres avec des cultures, des collaborateurs et des matériaux, je dirais. On voit même une espèce de trace de l'histoire de l'art à travers leur parcours. Il y a un moment très altuglace, plexi, c'est les années 70, il y a des moments... C'est drôle, à travers vraiment... et jusqu'à une sorte d'épure qui je pense, est la chose qui a guidé, qui guide ces dernières années.
Vous parlez, on va y revenir à cette multi-technique, mais vous parlez dans le spectacle d'un marionnettiste américain qui s'appelle Ted Milton.
Oui, un anglais exactement.
Ça a l'air d'être un sacré personnage.
Oui, il m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je crois qu'il est devenu ou redevenu seulement musicien. Oui, moi j'étais très petite et dans un festival qu'organisaient mes parents, j'étais à la fois terrifiée et fascinée par ce marionnettiste qui donc poursuivait à sa manière la tradition de Punch and Judy. Et c'était des spectacles de marionnettes d'une extrême violence. Les marionnettes se tapaient dessus, ça hurlait, il avait un sifflet, c'était strident. Je me rappelle qu'on vraiment on serrait les dents, tous les gamins étaient terrifiés. Et je crois que la marionnette continue d'exercer sur moi une légère terreur. Et je crois que je l'aime bien et qu'elle est rare et que je la trouve pas toujours au théâtre, mais quelque chose me glace toujours un petit peu. Voilà, peut-être c'est le souvenir de Ted Milton et qui était donc, en y repensant, très proche de l'esthétique punk, en fait. Et j'ai retrouvé ça dans Jerk, ce spectacle de Jonathan
Capdevielle.
Mais c'est des choses qui sont pour moi au cœur aussi. Il y a une grande contemplation et une terreur mélangée parfois. Je crois que j'aime bien.
Bérangère Ventusso, c'est un personnage que vous connaissez, Ted Milton ?
Non, pas du tout. Je ne peux qu'avouer mon inculture.
Célia Houdard parlait de ces modes qui passent et puis qui se dépassent dans la marionnette. Est-ce que vous trois, vous avez l'impression d'être passés successivement par des modes que vous avez abandonnés, qui vous ont lassés ? Bérangère Ventusso ?
Pas vraiment. Depuis une dizaine d'années, je travaille avec des marionnettes très réalistes. C'est devenu un peu mon verbe. J'ai encore l'impression d'avoir des choses à dire avec ce langage-là. Peut-être, je ne peux pas présager l'avenir, peut-être qu'un jour je ne ferai plus ça. Mais pour l'instant, j'ai encore des choses à comprendre et à explorer avec ce type de marionnettes. Qui font que l'humain cohabite avec un personnage qui a l'air d'être humain sans en avoir la vie. Et ça crée des multiplications de plans qui m'intéressent beaucoup et que je n'ai pas encore fini d'explorer.
Renaud Herbin, il y a des choses qui ne vous intéressent plus du tout dans la marionnette que vous avez laissée derrière vous ?
En fait, je crois que j'ai eu la chance de faire de l'école supérieure nationale des arts de la marionnette de Charleville-Mézières il y a quelques années maintenant. Et en sortant de cette école-là, où j'avais quand même croisé pas mal de maîtres, de grands maîtres de marionnettes du monde entier, et j'avais envie de revisiter, enfin de me dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de contemporain avec ces arts. Et j'avais plutôt tendance à m'en dégager, à y renoncer. Et je crois que depuis quelques années maintenant, et la vie des formes, je trouvais une belle réconciliation avec ces pratiques et aussi la dimension traditionnelle. Alors effectivement, là, on est plus sur une marionnette portée, un mannequin. J'ai beaucoup utilisé, et notamment dans mon dernier spectacle, la marionnette à fil. Et je trouve que finalement, la dimension traditionnelle, cet ancrage comme ça, ancestral, sur des pratiques et des techniques qui sont passées comme ça de main en main, je trouve nous donne un socle vraiment important et que c'est tout à fait compatible et excitant de les mettre au goût des questions d'aujourd'hui et puis des écritures d'aujourd'hui.
Justement, à propos de votre précédent spectacle qui s'appelait donc Milieu, vous, c'était donc un spectacle de marionnettes à fil, vous disiez que c'était finalement dans cette technique-là que la marionnette vous échappait le plus, alors que ça ne paraît pas instinctif.
C'est parce que c'est peut-être la technique la plus exigeante. On est à distance et en l'occurrence, dans Milieu, j'ai choisi d'avoir une marionnette à long fil qui font 2,20 m de long. Donc là, pour le coup, je ne peux même pas, à bout de bras, déplacer un mouvement qui serait, voilà, ou rectifier quelque chose qui ne serait mal parti. Je suis du verbe suivre, la marionnette dans ce qu'elle me propose, dans les mouvements qu'elle a en elle.
Joanne Hibert, vous êtes jeune, est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà abandonnées ? Vous êtes plus jeune. Enfin, déjà avec Olivier Py hier.
Je crois qu'on a à peu près les mêmes âges, à peu près, non ? On n'est pas très loin, je crois. Bon.
Alors, décidément, j'ai un gros point avec les âges.
En tout cas, merci beaucoup. Que dire ? Moi, je viens du théâtre et ma manière de faire des spectacles, c'est de partir souvent des écritures contemporaines, de textes. Et c'est un peu empirique, c'est-à-dire que pour chaque création, j'ai l'impression de redémarrer un petit peu à zéro et de penser, en fonction de la dramaturgie, l'esthétique de la marionnette et le rapport aux acteurs. Donc, contrairement à Bérangère, par exemple, dont je connais bien le travail, Renaud aussi, je crois que moi, je suis plus bordélique, on va dire, dans mon rapport au théâtre, et peut-être plus... Voilà, j'ai besoin de partir de la dramaturgie, de la questionner, de la chambouler, de la secouer, de voir quel est le rapport de l'acteur là-dedans et de créer avec des plasticiens les marionnettes en termes d'esthétique, d'échelle, qui vont me sembler justes. Mais donc,
je crois pas que je développe pour l'instant de choses précises sur un type de marionnette. C'est vrai que j'ai commencé la gaine avec Alain Recoin, qui est un grand monsieur qu'on a tous à peu près rencontré.
La gaine, c'est-à-dire expliquer.
Ah oui, la marionnette à gaine. Rien à voir avec le... Voilà.
Je me doute,
la marionnette
mais
à gaine.
Quand même.
Marionnette à gaine, c'est la marionnette, on dit, qui est la plus proche du rapport à l'acteur. L'acteur a la main à l'intérieur de la marionnette. Ce qu'on connaît ici, c'est, en France, c'est Guignol, mais on peut la traiter de manière vraiment contemporaine et neutre. Et voilà. Donc, c'est une relation très directe à l'acteur. Voilà, ça a commencé comme ça, mais j'ai une formation d'acteur par ailleurs. Et j'ai très vite essayé de comprendre ce qui existait comme type de rapport avec l'acteur. Donc je crois que j'ai un peu la sensation d'apprendre et de tester des choses à chaque spectacle. Peut-être qu'à un moment, je trouverai exactement la chose que je vais développer. Mais en tout cas, voilà.
Bérangère Ventusso, vous vouliez réagir.
Je voulais réagir sur le fait de choisir le mode, le type de marionnette et le mode d'animation en fonction du texte. Et là, moi, en ce moment, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que le choix des marionnettes hyper réalistes, il préexiste même au choix du texte. C'est-à-dire, il y a des textes que j'aime beaucoup, que je comprends que ça ne sert à rien de les monter avec ces marionnettes-là parce que je ne parviendrai pas à leur apporter une dimension supplémentaire. Donc, je réfléchis au texte que je vais monter à partir du présupposé de cette marionnette hyper réaliste avec laquelle je travaille.
Par exemple, quel texte vous avez écarté pour cette raison ?
Je saurais pas dire comme ça, mais il y a des textes de théâtre que j'aime et où je vois pas comment entrer pour l'instant. Peut-être que dans quelques années, ça viendra.
Célia Oudard, c'est quelque chose que vous comprenez ?
Comment dire ? Moi, au début, j'étais un peu inquiète. J'avais l'impression que la marionnette n'avait pas besoin de... pouvait s'exercer dans le silence ou avec la musique. La présence du texte, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait écrire une forme soi-même face à la marionnette très singulière et presque autonome. Je comprends que les marionnettistes soient attirés par des textes de la littérature, sans forcément d'ailleurs les adapter, parce que il faut faire acte de présence face à la marionnette et au mouvement, puisqu'il ne s'agit pas d'écrire pour des interprètes, acteurs, etc. Et du coup, je trouve que la littérature a peut-être quelque chose à jouer aux côtés de la marionnette. Nous, c'est ce qu'on essaie. Voilà.
Johan Hibert.
Oui, je crois que... par rapport aux deux spectacles, donc du Juillet à Vif et puis du spectacle de Bérangère, ce qui m'a beaucoup intéressé en voyant ces deux spectacles, c'est justement ce que vous dites, le rapport au texte. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire de texte-récit, il y a le texte joué en direct. C'est comme si, en fait, la marionnette permettait aussi des creux. C'est-à-dire qu'on a besoin de creux dans le texte pour que la forme puisse aussi exister. Ça veut pas, les creux, ça ne veut pas dire forcément le silence, mais ça veut dire aussi des choses que le rapport entre l'animé et l'animé, comment je dirais, est présent et presque une chose qui fait éponge comme ça, qui réagit en fait avec l'écriture. Donc moi, je crois que le texte est très important. Je pense que l'acteur et la marionnette a besoin aussi de mots pour exprimer des choses qu'elle ne pourra peut-être pas faire que par le mouvement. Mais en tout cas, ça questionne beaucoup la dramaturgie.
Bérangère Ventusso.
Oui, hier soir, par exemple, je suis allée voir les damnés dans la cour. Et pendant tout le début du spectacle, j'ai beaucoup pensé à la marionnette parce que je trouve que la manière dont il utilise l'outil vidéo et la manière dont la scène est diffractée entre l'acteur, entre différents espaces, entre la vidéo, m'a mise, moi, dans un rapport que j'aime beaucoup dans la marionnette, qui est un rapport où je dois, en tant que spectatrice, recomposer quelque chose et faire mon chemin de recomposer à partir de ce qui est mis en jeu au plateau.
Célia Oudard, à la fin de votre texte, vous faites une analogie entre la phrase et la marionnette dans la jeunesse de l'écriture. Il y a quelque chose pour vous de la création de marionnettes, même peut-être en rapport avec la création des personnages en littérature ?
Ah, oui, je tente cette analogie entre le moment où surgit un personnage sous forme de détails, de fragments, d'éléments de silhouette et comment ces choses-là coagulent, comment se forment peu à peu dans mon esprit ces présences et à travers le je veux dire à l'échelle de la phrase, du chapitre, de Et oui, il y a comme une espèce de laboratoire, de, comme un, il y a à la fois du dépôt lent et du surgissement comme ça de choses qui deviennent plus aiguës. Et oui, c'est, alors c'est un peu mystérieux. Alors j'essaie d'en parler, mais c'est des choses qui je trouve très bizarres moi-même. Mais donc j'ai essayé d'en parler. C'est vrai que c'est de l'ordre de l'analogie. Il y a dans la phrase, dans les mots, il y a parfois des personnages comme ça qui prennent corps ou qui prennent vie, qu'on se voit. Et donc je suis un peu la première moi à essayer de les voir et d'être attentive à eux. Donc il y a comme un petit théâtre. Je ne sais pas s'il est de marionnettes, mais en tout cas il y a des présences très étranges qui ne montre d'elle que des parties parfois, et j'essaie d'être fidèle à l'ordre de surgissement des choses moi-même quand je restitue ça dans mes romans. Et oui, il y a de l'analogie, oui.
Renaud Herbin, ça fait déjà plusieurs jours que vous jouez le spectacle. Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Est-ce que votre écoute, puisque vous écoutez, j'imagine, la lecture de Célia Houda, est-ce que votre écoute induit tous les jours des nouveaux mouvements ou des variations même infimes dans la manipulation de la
complètement,
marionnette ?
Oui, de jour en jour, c'est très différent. Et je pense que c'est aussi qu'on connaît la partition de l'autre et on se laisse surprendre par finalement ce qu'on nous propose, c'est de jouer à la rencontre. À la rencontre de nos médiums, de nos personnes, et que chaque jour on réinvente cette rencontre avec tous les rendez-vous qu'on connaît, mais qu'on essaie d'oublier, et puis de se laisser surprendre par l'imprévu.
Il y a une très grande délicatesse, je le disais, dans la manière dont vous manipulez ce mannequin-là. Est-ce qu'on peut tout faire avec une marionnette parce que c'est sous prétexte que c'est inanimé? Est-ce qu'avec une figure même de papier, on peut tout se permettre, on peut faire souffrir, torturer une marionnette? Je vois Jonathan Capdevielle derrière, du coup ça m'inspire, oui, cette question, on en parlera
laisser,
avec lui.
On va lui laisser la souffrance.
Non mais pour Johan Hibert, c'est une vraie question, puisque vous manipulez, vous tordez un personnage
oui,
de papier.
Bah, c'est-à-dire que de manière très naïve, on peut dire que c'est aussi la possibilité assez géniale de la marionnette, de choses qu'on ne pourrait pas faire de cette façon-là, en tout cas avec un humain, en tout cas ça n'a pas peut-être la même force... soit poétique, soit conventionnel. Enfin, oui, bien sûr, dans le spectacle de Renaud et Célia, justement, j'étais surpris. Il y a une fois où vraiment elle tombe, la tête tombe, on entend poc comme ça sur le sol. Et c'est des moments comme ça dans la salle qui sont très forts. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, ça m'a beaucoup, ce moment-là, ça m'a vraiment. Je me suis dit, effectivement, à ce moment-là, je me dis, oui, on peut tout à fait, effectivement, lâcher la tête et. Et ça fait une sorte de frémissement dans la salle. Pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. J'ai pas envie trop de l'expliquer d'ailleurs, mais ça fait un frémissement dans la salle comme ça. De même, je vois bien dans Kraft, par exemple, il y a un moment où le personnage est construit, il se met droit et puis il se remet le, comme s'il avait une sorte de plastron ou de t-shirt, il se le remet droit comme ça, on voit le papier qui se défroisse. Et les gens rient à ce moment-là parfois dans la salle. Et on a fait ça nous comme ça. Et je me demande toujours pourquoi les gens rient à ce moment-là. Je ne sais pas. J'ai pas
Peut-être
envie de savoir.
Parce qu'ils sont mal à l'aise justement.
Je ne sais pas.
Il y a une pièce dans le festival, et ce sera ma dernière question, où il n'y a pas du tout de marionnette. Pour le coup, c'est 2666 de Julien Gosselin. Mais le spectacle, je ne sais pas si vous l'avez vu, commence par un dialogue entre un présentateur télé et un ventriloque qui explique que son pantin, c'est en espagnol, qui explique que son pantin est en train de se retourner contre lui au fil des années et qu'il le tuerait s'il en avait la force. Est-ce que c'est un cauchemar que vous faites parfois, Renaud Herbin ?
Absolument pas.
Non, moi non plus.
Pas du tout.
Célia Houda, vous parliez de la terreur. Quand même, il y a quelque chose d'effrayant dans la figure du pantin et dans la marionnette en général.
Oui. Oui, parce que la vie va et vient, j'allais dire. Il y a des moments où ça prend cher et il y a des moments où c'est comme si la vie partait. Ces moments de rupture, comme si on débranchait la vie de quelqu'un. Moi, c'est des choses comme ça, ou des accès de violence de la part de choses qui il y a deux secondes avant, semblaient inertes. Peut-être c'est la rapidité du surgissement de la vie puis de son départ qui crée des vertiges et des terreurs. Voilà, c'est peut-être ça, moi. Mais sinon, moi, j'ai jamais fait ce genre de cauchemar. Mais non, moi, c'est des spectacles en vrai qui m'ont inspiré des terreurs. Et voilà, Guignol, quand c'est bien fait, c'est aussi très violent et très inquiétant.
Un grand merci à tous les quatre. Bérangère Ventusseau, l'Institut Benjamin Tage, joue ici à Avignon jusqu'au 13 juillet, puis part en tournée. Célia Houdard et Renaud Herbin, votre spectacle La vie des formes se joue dans le cadre des Sujets à Vif jusqu'au 14 juillet. Et puis Célia Houdard, votre dernier ouvrage s'appelle Gilles. et il est publié chez POL. Et Johann-Hubert Krapf se joue jusqu'au 28 juillet au Chapeau d'Éden Théâtre. Tout de suite, on écoute Puppeteer, le marionnettiste, le fameux marionnettiste dont il était question, Ted Milton, fait donc toujours du punk. Et ça, c'est sa chanson. La Grande Table continue avec Joël Gaillot dans quelques instants, puis deuxième partie avec Laetitia Doche et Jonathan Capdevielle. Et c'est la grande table d'été. Tout de suite, c'est l'heure de l'entretien de Joël Gaillot. Tous les jours ici à Avignon, Joël Gaillot invite un artiste du off. Aujourd'hui, Olivier Werner. Bonjour Joël.
Bonjour Lucie. Effectivement, c'est Olivier Werner qui est avec nous aujourd'hui. C'est un homme qui s'est pris par la main pour monter de toutes pièces le projet qui lui tenait à cœur. Olivier Werner est un acteur qui peut déclamer les alexandrins et enchaîner avec une prose ultra contemporaine. C'est aussi un acteur qui, s'il le faut, peut se raser entièrement la tête pour un rôle. C'est un acteur puissant, mais d'une finesse rare, qui a décidé il y a quelques années de fonder sa propre compagnie, Forage, et sans un sou ou presque, a créé son spectacle, La Pensée. Alors ce spectacle, parlons-en, La Pensée, vous pouvez le voir au théâtre Le Nouveau Ring tous les jours à 12h10. Le Nouveau Ring, ça sonne bien pour une représentation qui a tout d'un combat à main nue. Le plateau est une cage, mur blanc d'une chambre d'hôpital ou d'un asile psychiatrique, on ne sait pas. Au sol, des plaques de verre, des plaques de fer grillagées, un lit en fer et sans matelas. Et Olivier Werner qui est là, seul en scène, le visage grimé de blanc, la chemise boutonnée jusqu'au menton, seul en scène mais livré à de multiples démons intérieurs. Il est le docteur Kerjantsev, héros ou anti-héros de La Pensée, un texte de Léonid Andreïev, un texte fou et qui vous mène au bord de la folie. Le docteur est accusé de meurtre, mais a-t-il tué par jalousie ou sous le coup d'une bouffée de démence ? Bien malin qui pourra donner la réponse. Est-ce que vous l'avez la réponse, Olivier Werner ?
Ah non, je ne l'ai toujours pas.
Et vous ne voulez pas la donner, donc, au spectateur ?
Certainement pas, non, justement pas. Le texte ne résout rien.
Cette aventure de La Pensée qui a démarré dans un petit théâtre en périphérie parisienne et qui se retrouve aujourd'hui dans le Off d'Avignon, quelle énergie est-ce qu'elle vous a demandé pour exister, Olivier Werner ?
Beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un spectacle que j'ai créé dans un petit théâtre d'art et d'essai à Montreuil chez mon ami metteur en scène Ursula Mikos. Et puis peu à peu, il a eu une vie, ça s'est mis en place. Mais oui, ça faisait partie d'une trilogie sur la thématique de l'enfermement que j'avais mis en place. J'avais monté After the End de Dennis Kelly d'abord, sur l'enfermement fait divers, et puis là c'était l'enfermement psychiatrique, voilà.
Le décor, je le disais, est assez élémentaire, quoique assez spectaculaire aussi. Il tient, je crois, dans un tout petit camion. Vous êtes tout seul en scène. Est-ce que c'est à ces conditions d'une extrême économie qu'on peut déployer des projets personnels et qui vous tiennent à cœur ?
Oui, en tout cas, là, c'était évident que moi, je faisais un décor dont je me disais qu'il fallait que ça tienne dans un 12 mètres cubes. Donc ça, c'est des contraintes techniques qu'on a au départ. On se dit, il faut que ça tienne. C'était pas la condition, mais c'était une des conditions qui fait que je pouvais faire ce spectacle. Je voulais faire un spectacle que je puisse tourner dans plein d'endroits différents, pas forcément uniquement dans les théâtres. Donc j'ai une scénographie qui existe pour des institutions, on va dire, avec la boîte entière, toute une salle que je reproduis. Et puis, comme ici en Avignon, uniquement avec le sol métallique et le mur du fond.
Alors, qui est Léonid Andriev, cet auteur russe, je pense? Et comment ce texte est-il arrivé dans vos mains?
Moi, c'est un livre de chevet. Pour moi, il y a 20 ans, j'avais découvert la pensée. Andreïev, c'est un contemporain de Gorky, qui adulait Andreïev, d'ailleurs. Il était chroniqueur judiciaire. Il était photographe, excellent novelliste. Il avait été découvert à l'époque par Terziev, parce que Terziev avait monté la pièce. Il avait écrit une pièce qui s'appelle La pensée, que je trouve pas très, très intéressante, mais la nouvelle est absolument remarquable. Et j'avais découvert ça il y a une vingtaine d'années chez un bouquiniste, et je m'étais toujours dit, le jour où tu te coltines un monologue, ça sera ça.
Mmh. Il y a quelque chose d'un peu dostoïevskien d'ailleurs, hein, dans le texte d'Andriev.
Oui, c'est un personnage très nihiliste, très sarcastique. La pièce est à la fois... Enfin, le spectacle, je pense, est à la fois très, très noir et très drôle en même temps. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de très sombre et très organique, comme peuvent l'être les Russes. Ouais.
Quelle est la situation qui est proposée dans la pièce? Parce que même si vous ne voulez pas nous dire si ce médecin est fou ou pas, on peut peut-être quand même donner quelques éléments.
En fait, Andreïev joue la carte de la fiction documentaire. Il laisse entendre à son public qu'il a récupéré 8 feuillets écrits par un homme enfermé dans un asile psychiatrique en attente de son jugement parce qu'il a tué son meilleur ami. Ça, il le dit dès le début. Le personnage est médecin de son état. Et dans le spectacle que je fais, ce personnage a l'immense orgueil de croire qu'il peut s'auto-diagnostiquer devant les médecins qui sont chargés de statuer sur son sort juridique pour savoir s'il doit être enfermé à vie en prison ou en asile psychiatrique. Donc on a devant nous quelqu'un, je vais pas jusqu'à vous mettre des blouses blanches dans la salle, mais c'est un peu le cas. Je parle vraiment aux gens, je rallume un petit peu la salle parce que j'ai besoin de voir les gens dans les yeux, de les regarder et d'appuyer mon travail précisément sur les réactions ou non-réactions du public. Parce que c'est un personnage extrêmement paranoïaque qui passe son temps à anticiper sur tout ce qu'on peut penser de ce qu'il est en train de dire. Voilà, donc c'est 1h30, c'est long pour un monologue. Donc ça fonctionne sur l'épuisement de la parole, beaucoup, parce qu'il y a des choses que cet homme ne peut commencer à dire qu'à partir du moment où il est épuisé. Et en racontant par le menu, ce qui a précédé le moment de son acte et ce qu'il a suivi, c'est quelqu'un qui, en cours de route, tombe sur des lapsus, tombe sur des digressions et se rend compte qu'il a totalement perdu la raison. Mais il s'en rend compte devant les gens. Donc c'est quelqu'un qui perd la raison en public. C'est un fantasme absolu pour l'acteur.
C'est vrai ?
Oui.
Perdre la raison en public est un fantasme d'acteur.
Non, le fantasme de l'acteur, c'est de la traversée irréversible du miroir, on va dire. Sauf qu'on est protégé par le grand T du théâtre. On n'est pas fou, mais on rêve de le devenir.
Mais est-ce que l'acteur peut s'autoriser un véritable lâcher-prise sur la scène de théâtre, Olivier Werner ?
Ah, je pense. S'il y a bien un endroit où on peut le faire, s'il y a bien un endroit, de toute façon, où on ne prend pas de risque, c'est bien sur la scène. Donc, où tout est possible. Entre le moment où ça commence et le moment où ça se termine, des applaudissements, s'il y a bien un endroit où on doit se risquer à quelque chose, c'est bien celui-là. Voilà, essayer de créer les conditions pour que quelque chose d'inattendu ait lieu. Il y a ce qu'on a prévu, ce qu'on a répété. Mais l'idée d'avoir suffisamment travaillé son spectacle pour que quelque chose de l'instant présent ait lieu avec les gens ici et maintenant, oui, il faut prendre ces risques-là. On ne meurt pas, hein, on est au théâtre.
Mais est-ce que l'ivresse des mots, ça existe ? Parce que là, c'est vraiment un théâtre de parole, un théâtre adressé. Est-ce qu'on est gagné par l'ivresse des mots ? Est-ce que vous êtes gagné par l'ivresse des mots,
En répétition,
Werner ?
C'était le cas. En répétition, il y a à un moment donné, au bout d'une heure de texte, ça tournait dans mon crâne, je ne savais plus où j'étais, c'était un peu compliqué. Et puis, à force de travailler de façon très artisanale, on a ses repères, c'est comme en jazz, on a une grille qui se met en place, et plus la grille est précise, plus il y a une marge d'improvisation. Par exemple, le phrasé du spectacle n'existe pas, ça revient souvent le même, mais il y a des moments où ça change. Et par contre, il faut être dans l'image, il faut être dans les mots, il faut être dans le paysage intérieur. Et ça, d'un jour à l'autre, ça bouge. On n'est pas sensible toujours aux mêmes choses. Quand on quand on s'adresse aux gens, ça dépend des gens qu'on voit en face de nous, comment
mais,
ça se passe.
Mais justement, à Avignon, vous tractez jusqu'à 2h du matin pour que le public vienne, parce que ça vient aussi comme ça, hein, public dans le off d'Avignon, c'est par le tract. Ouais. Ce qui fait que vous vous levez le matin, vous êtes un peu fatigué. Or, il faut une forme physique quand même assez étonnante, hein, pour tenir cette partition.
Ben, là, sur cet Avignon, je ne fume pas, je ne bois pas. C'est assez frustrant. mais il faut avoir du jus pour ça. Mais je crois que toutes les compagnies qui sont dans le off le comprennent, là. C'est vraiment... Mais c'est assez agréable en même temps. C'est fastidieux de tout passer son temps. Moi, je tracte 4-5 heures par jour. Effectivement, j'affichais jusqu'à 2 heures du mat hier. Mais en même temps, on a des discussions savoureuses avec les gens. Et moi, je suis assez sensible à ça. Voilà.
Merci beaucoup, Olivier Werner. Je rappelle donc que votre spectacle La Pensée, c'est au théâtre Le Nouveau Ring. C'est tous les jours jusqu'à 12h10 et c'est jusqu'à la fin du festival, jusqu'au 30 juillet.
Merci de m'avoir invité.
Merci, Lucille.
Merci, Joël. On vous retrouve demain à la même heure avec votre invité qui sera
Pauline Bell.
France Culture, la grande table d'été, Lucille Como.
Et nous sommes toujours en direct de l'école des Ortolans à Avignon et il y a du vent. Bonjour Laetitia Doche, bonjour Jonathan Capdevielle.
Bonjour.
Bonjour.
Vous produisez, vous tous les deux, dans le cadre des sujets à vif. C'est une petite forme là dont on vient de parler avec Célia Houdard et Renaud Herbin qui réunit deux artistes qui viennent de domaines différents et qui doivent créer quelque chose ensemble. Vous, votre performance s'appelle Les corps vidés. Alors quand on entre dans la cour, sur la scène, il y a deux corbeaux qui parlent. Des corbeaux qui parlent, qui commentent les tenues des spectateurs, qui critiquent les spectacles en cours, qui parlent des polos des uns et des autres. Puis, vous entrez tous les deux, mais un peu plus tard et très doucement, et vous êtes un couple de vampires.
Ça fait un mois que j'ai pas sucé. C'est toi qui as dit ça, non ?
Quoi ? Ah, mais dis donc, t'as...
Mais oui, je maigris, ça se voit. C'est parce qu'en ce moment, je fais attention, je suis que des gens en pleine forme.
Des coachs sportifs ?
Oui, de l'Arena à Avignon, un club de sport qui ferme tard, je fais toujours la fermeture.
Ah, c'est pratique ça. Mais attends, comment tu fais ? Parce que les douches, c'est individuel. Non, le sauna, il est...
Bah déjà, je suis que des hommes, je trouve que ça me donne un tempérament plus combatif.
T'as la salle de sport, tu suces ?
Ouais.
Et les mecs, ils sont pas bourrés dans tes canines ?
Ah bah c'est pour ça.
Ah bah c'est pour ça que la dernière fois t'as tout cassé. T'as tout cassé dans la chambre d'hôtel. T'as tout balancé par les fenêtres, t'as transformé le canapé en kit-clat.
Mais ne m'en parle pas.
J'ai pas dormi de la nuit. Attends, tu passais du sol au plafond en une fraction de seconde.
Ne m'en parle pas.
On était en Italie, le mec...
Mais tu confonds, c'était il y a 100 ans, ça.
Ah. Tiens, tu vois.
C'était quand j'avais décidé de boire du sang de bœuf parce que ça me causait des problèmes moraux de sucer les humains.
Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre ? Vous avez l'air outré par vous-même, tous les deux.
Oui, c'est... Ouais, ouais. C'est...
Jonathan Capdevielle.
Pardon.
Non, mais on n'a pas vraiment la notion de voix au plateau aussi facilement que ça. Et là, on se rend compte, par exemple, qu'au niveau du rythme, il faut
je
être plus
vraiment
vigilant.
Je parle très lentement, quoi, non ? Il faut parler
oui,
un peu
mais,
plus vite quand même.
T'es
c'est
un peu
bon,
stone aussi.
Ouais, c'est vrai.
Bon. On est des vampires un peu stone.
Oui,
en
vous
fait,
entrez hein. Très lentement.
Très lentement, ouais.
Cette entrée, vous avez décidé de la faire très lentement depuis le début ?
Oui, ouais, ouais.
On voulait qu'ils aient un rythme spécial, ces vampires, justement, parce que de toute façon, ils ont tout le temps qu'ils veulent, étant donné qu'ils n'ont pas de faim. Et qu'au bout d'un moment, la lassitude s'installant, c'est comme quand il fait très chaud dans un pays. Enfin, quand on est touriste dans un pays où il fait très chaud, par exemple, on avance tous les touristes, ils avancent très lentement. Donc il y avait ce truc-là, et aussi il y a une certaine grâce du coup qui se dégage d'eux, certaine majesté.
Oui, puis vous avez une très, très belle robe, avec de la dentelle très gothique.
Oui, c'est ça.
C'est vous qui l'avez conçue, ce costume-là ?
Non, c'est une robe d'Alexis Mabille, c'est une robe de couture qu'on nous a prêtée pour le spectacle, oui, oui.
Moi non, je suis habillée en H&M.
Lui, il est plus acteur américain qui va prendre son acteur connu américain qui va
ouais,
prendre
son
jus
le
matin. Quoi.
Oui, enfin, avec des ongles très longs et des ongles rouges.
Oui, là, ils sont rouges, mais au plateau, ils ont plus l'air de griffes que d'ongles.
Vous avez des longs ongles parce que vous êtes des vampires. D'où est venue cette idée de vampire ?
Bah, d'abord, d'un film aussi, non ?
Oui, mais ça a commencé un petit peu avant.
D'accord. Ça je ne me rappelle plus.
Oui, c'est ça. Ça a commencé parce que on voulait. On a commencé par les corbeaux, je te signale. C'est quand tu as eu l'idée des corbeaux, tu voulais qu'il y ait des corbeaux qu'on double.
Une marionnette, ouais, je voulais l'idée de marionnette, ouais.
Non, d'animaux.
Oui, mais d'animaux transformés en marionnettes.
Voilà. C'est une vraie question. Est-ce qu'on parlait de marionnettes avant? Parce que là, donc, il y a des corbeaux. C'est vous deux qui faites les voix?
Oui.
D'accord. Et du coup, c'est pour vous, Jonathan Capdevielle, un animal vivant,
oui.
Ça peut être une marionnette?
Oui.
On est à la limite de l'animé-inanimé, là, pour le coup.
Ah oui, on est à la frontière entre les deux. Mais c'est là que c'est intéressant. D'ailleurs, ils sont filmés. Hein, c'est comme ça qu'on peut les doubler. Ils sont filmés. On a un écran en retour. Donc, on fait aussi attention à leur posture et on s'accorde sur leur énergie d'animaux, quoi. Donc, voilà.
Vous, votre voix est méconnaissable. Je ne pensais pas que c'était vous, Laetitia Doche. Comment vous avez travaillé cette voix-là?
Ben, comme ça.
Non, c'est depuis petite, j'imite beaucoup et voilà.
Vous parliez d'un film de vampire, c'est quel film?
Only Lovers Left Alive. C'est vrai que quand on... Il y avait une beauté qui... C'est très beau de mettre des personnages qui sont à la limite du fantastique et arriver à ce qu'on y croit, je trouve. Que le spectateur en face y croit, à créer une autre réalité. Ça, c'était super beau et c'est vrai que cette réalité-là qui est très dans les airs, qui flotte et des gens qui ont traversé beaucoup d'époques, qui sont ensemble, collés ensemble pour toujours. Enfin, les problèmes, les éclairages que ça pouvait donner étaient beaux, on trouvait.
Les problématiques du couple, quand ils sont vampires, la sociabilité avec les humains, toutes ces choses-là. Bon, voilà.
C'est un drôle de lien avec les humains, parce que d'un côté, c'est leur proie, de l'autre, ils les envient parce qu'ils ne sont pas mortels, eux. Et c'est comme des spectateurs des humains aussi. Et là, on voit beaucoup. On a regardé un film qui s'appelle Nosferatu, vous voyez, avec Klaus Kinski, le deuxième Palpa, le vieux. Et quand il regarde les humains, Klaus Kinski, on sent vraiment de la grande mélancolie, de l'envie, plein de trucs mélangés. Et ça me semblait un bon axe pour parler, en fait, du monde. Bon, même si on parle beaucoup de cul pour l'instant, mais on parle aussi du monde un peu.
Ouais, en partie, mais ouais. Bon, pas que. On développe aussi un répertoire de théâtre dans tout ça. Et on développe aussi un mouvement au plateau. Donc cette lenteur, elle est aussi voulue dans le sens où elle crée une espèce de latence et que même si les méchancetés sont balancées à des moments donnés, elles retombent très très vite comme dans une mare au canard, quoi.
Exactement.
On va y revenir, mais vous le disiez, vous êtes un couple sur scène, un couple collé depuis des années. Là, en l'occurrence, le sujet à vivre, c'est justement de marier des artistes. On en parlait avec Célia Houdard et Renaud Herbin, qui avaient l'impression d'un mariage forcé, mais heureux. Vous pouvez dire la même chose?
Oui.
Mais en fait, on a essayé que ce soit pas un mariage, on a essayé qu'on soit concentré sur une troisième chose qu'on construisait ensemble, quoi. Et donc, finalement...
Un enfant, quoi.
Ouais, si on veut, ouais.
C'est une sorte d'enfant, mais aussi on a travaillé, on peut aussi parler de la manière dont on a travaillé ce matériel, beaucoup dans l'improvisation d'abord en discutant, en gardant l'idée qu'on était des vampires, de quelle manière les sujets du quotidien, les discussions sur les siècles passés ou même sur ce qui nous arrive au présent, on l'a traduit juste en discussion tous les deux et puis enregistré, et puis on a sorti, extrait l'enregistrement. Et donc, on a ensuite retravaillé un petit peu l'écriture du dialogue de ces deux personnages-là.
Et en fait, c'était assez marrant. Oui. En fait, c'était assez marrant quand on a retranscrit cette improvisation, parce qu'en fait, c'en est qu'une d'une demi-heure. Ce qui était assez marrant, c'est que ça ressemblait. Ça m'a fait penser, moi, En attendant Godot, dans le sens où c'est pas les dialogues qui sont importants, c'est pas ce qui se dit. C'est le vide entre, enfin c'est le désœuvrement, c'est la, le vide. Et ça, on le sentait vraiment en fait, parce qu'on était en impro, du coup on cherchait. Et en fait, il y avait une tension du vide, de l'ennui ou d'un truc à meubler qui était présente.
Qui fonctionnait bien dans l'enregistrement, du coup, hein, du coup dans cette version radiophonique finalement. D'un coup, le silence prend une autre importance. Et au plateau, pour concrétiser ça, il fallait que le corps puisse à un endroit raconter
autre chose que ce qui est dit.
Autre chose que ce qui est dit et poser ce moment de silence.
Vous avez une figure en commun dans vos parcours respectifs, c'est celle du metteur en scène et performeur Yves-Noël Genot. Qu'est-ce qu'il vous a apporté à tous les deux? Est-ce que vous diriez que vous appartenez à cette école-là, Laetitia Doche?
Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec lui. Mais j'ai l'impression qu'il peut travailler avec tout le monde du moment que on a un univers propre.
Oui.
Et il y a quand même un goût pour l'improvisation, mais peut-être pas pour des gens qui improvisent pas du tout non plus, je sais pas.
C'est un faiseur de spectacles, c'est un fédérateur. Ouais. Et alors on peut venir d'horizons différents. Il arrive toujours à créer un univers assez singulier avec des gens qui viennent de tous bords, de toute pratique, même amateurs. Et je trouve que la grande force d'Yves Noël, c'est ça. Et puis moi, il y a une grande possibilité d'invention dans ces partitions, dans ces spectacles.
Laetitia Doge, vous jouez d'une part dans un théâtre assez classique, on peut dire, notamment avec Jean-Yves Ruff, un Shakespeare, mais vous avez aussi eu le rôle principal de la Mégère apprivoisée. Et puis vous produisez aussi seul en scène, récemment dans un spectacle qui s'appelle Un album. Est-ce que vous vous considérez comme une humoriste ?
Non, par contre, j'aime beaucoup l'humour. Je trouve qu'il y a une grande force dedans. Et j'aime bien l'humour, surtout quand il est à un endroit où il n'est pas franc. J'ai un problème parfois avec l'humour franchouillard où, par exemple, les gestes sont très marqués ou il y a un style un peu d'humour français. Et je trouve que, par exemple, quand je regarde Louis C.K., vous voyez cette série américaine, quand même Zouk, des gens comme ça qui apportent un humour qui est trouble, qui est comme existentiel, très fort, et qui touche à un endroit très intime du corps, même c'est physique quand on voit ce qu'ils font. Et donc l'humour m'intéresse, mais je crois pas que je sois une humoriste.
Vous en parlez beaucoup de Zouk. Qui est-elle ?
Ah pardon, oui. C'est une soi-disant humoriste des années 80 qui passait dans des grandes salles au Théâtre de la Ville, tout ça, qui faisait des spectacles où elle enchaînait 80 personnages. Et c'était assez troublant parce qu'on a l'impression qu'elle n'a pas de corps, qu'elle n'a pas de voix propre, qu'elle n'a pas de corps propre. Et en fait, c'est comme un chamallow devant nous, quoi. Ou comme l'humanité entière dans une personne. Et c'est très flippant à voir. Et pourtant, ça passait à Bobino. Dans des grandes salles, quoi. Et ça passait sur France Antenne 2 à l'époque. Donc c'était des grands publics, et pourtant d'une manière très étrange, bizarre, inquiétante.
Un album, c'est un spectacle dans lequel vous incarnez des dizaines de personnages, vous aussi, que vous avez rencontrés, observés un peu partout lors de vos voyages. Ça veut dire que vous êtes tout le temps à l'affût de ce qui se passe autour de vous, de personnages potentiels, Laetitia Doge ?
Mais c'était aussi pour ça qu'on a voulu travailler sur les vampires, en fait. C'était que l'un et l'autre, on est des gens qui se souvenons très bien, qui avons une très bonne mémoire, qui sont comme un peu extérieurs par moment au monde et qui le regardons tout le temps. C'est vrai, non, parce que Jonathan aussi fait des spectacles où il utilise beaucoup des souvenirs. Vous voulez y venir un peu plus tard,
non ? Non, pas du tout.
Non, vous voulez pas en parler.
Si, tout à fait, mais vous faites absolument comme vous voulez, au rythme.
Et donc, il y a ce truc-là de vampires, des gens qui sont toujours un peu extérieurs, qui se souviennent des sons de voix, des mots. Et on est vrai qu'on avait peut-être ça un peu en commun, non ?
Oui, moi travail. Je pense. Puis Laetitia a cette manière aussi de décaler l'imitation, de la rendre pas seulement divertissante, mais aussi troublante et touchante, de par la manière dont elle investit ses personnages et dont sa voix est sollicitée. Et pour moi, c'est un peu la même chose. Je travaille sur l'autoportrait, sur les carnets intimes, la famille, notamment sur un solo qui s'appelle Adi Schatz, où je convoque au plateau, uniquement par la présence du solo, c'est-à-dire seulement moi, et les multiples voix, les fantômes qui ont construit l'identité dans laquelle je vis aujourd'hui, et même sur scène. Donc, voilà.
Et beaucoup de chansons dans ce spectacle Adi Schatz, puisque vous, ce qui vous intéresse, c'est d'imiter les chanteurs, si j'ai bien compris, Jonathan Capdevielle.
Pas que. La partie chantée, en fait, c'est une bande-son qui est liée à ce que j'écoutais quand j'étais ado. Et ce spectacle mélange évidemment les influences à la fois musicales, les influences des rencontres que j'ai pu faire, notamment dans les boîtes de nuit quand j'étais ado, et puis aussi ma capacité sur le moment présent à faire de ces histoires passées un matériel pour me construire plus tard en tant qu'artiste. Et cette métamorphose, elle est présente au plateau et on la découvre en même temps que toutes ces histoires.
C'est quelque chose sur l'expérience, en fait, finalement. C'est comment les souvenirs deviennent, sont dans notre corps. Et par exemple, les chansons, quand on chante des chansons, l'adolescence, c'est ce qui nous fait créer de l'imaginaire pour plus tard, qui nous fait nous construire aussi. Enfin voilà, c'est tout.
Dans Les Corps Vidés, il y a un jeu sur la banalité des énoncés qui sont intégrés dans le spectacle. Par exemple, une conversation quand on accueille des gens qui arrivent pour dîner, ou alors les jingles SNCF. J'ai l'impression que ça fait partie d'un travail d'imitation. Est-ce que c'est ça pour vous, Jonathan Capdevielle ?
Oui, c'est de l'imitation, mais le corps n'est pas investi par cette imitation. Elle est uniquement vocale. Donc, on a en fait une dissociation corps-voix qui est nette à cet endroit-là. On a voulu garder justement cette distance entre le corps et la partition sonore.
C'est comme si nos vampires à nous, ils captent tout. Donc du coup, ils vont se souvenir parfaitement du jingle SNCF. Vous voyez le cauchemar que c'est des gens qui se souviennent de plein de bêtises, quoi.
C'est de la pollution, en fait.
C'est de la pollution, c'est des gens qui sont très, très pollués.
Mais du coup, c'est un peu votre cas aussi ?
Voilà, il y a quelque chose qui est où on joue avec des choses un peu personnelles, peut-être.
On est un peu comme des éponges, hein. C'est vrai que moi, j'ai les oreilles toujours aux aguets, de ce que je peux entendre, et les yeux, pareil. J'observe le monde dans lequel je vis depuis que je suis ado, enfant même. Voilà.
Vous avez une formation, entre autres...
de monsieur, Jonathan.
Bon, tant pis pour le monsieur. Vous avez une formation de marionnettiste. Est-ce que quand vous êtes sur scène avec des marionnettes, vous considérez que vous êtes seul en scène ? Est-ce que Jerk, par exemple, qui est un spectacle emblématique, c'est un seul en scène ?
Ben, je suis seul en scène avec mes fantômes. Voilà, encore une fois, de multiples personnages. Et la marionnette m'aide, justement, comme support, à ne pas être seul. Donc je dirais que non, je ne suis pas seul.
Dans Les Corps Vidés, on a l'impression, Laetitia Deutsch et Jonathan Capdevielle, que vous testez le drôle, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est de tester ce qui est drôle en allant assez loin dans le cru ou dans le mauvais goût. Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est pas de faire rire les gens, mais de voir, vous, ce qui fait rire les gens ?
Non, pas vraiment, mais c'est intéressant quand même. Hein. Mais il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est de trouver cet humour qui est dangereux. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que dire des obscénités, parler de sodomie, quand on est une femme, par exemple, il y a quelque chose de dangereux. Même quand on est un homme, hein, d'ailleurs.
Bah oui.
Surtout quand on est bien précis, avec un vocabulaire comme le tien. Il y a quelque chose qui est malaisant. Voilà. Et c'est... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'état dans lequel ça met les gens qui, moi, m'intéresse, en fait. Qui est plus que de l'humour, justement. Qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train de voir ? Il y a une énergie... une énergie là-dedans, que j'aime bien.
De ce point de vue, il y a un spectacle, Laetitia Deutsch, où c'était vraiment ça qui était l'enjeu principal. Ça s'appelait Laetitia fait péter. Vous interprétiez pour le coup une humoriste, mais ça se décomposait complètement au fur et à mesure, jusqu'à rendre très très mal les gens. Vous l'avez vu,
Je ne l'ai pas vu, non, celui-là. Non, j'ai pas vu.
Qu'est-ce que vous essayez de faire avec ce spectacle, Laetitia Deutsch ?
Bah, il y a différentes choses. Je trouvais ça super beau de faire une comique amateur. Quelqu'un qui n'a pas les armes, mais qui a fait sa liste avec que des blagues sur les handicapés et les juifs. Donc il y a une certaine naïveté, et en même temps une violence qui... Voilà, et puis ce qui était beau, c'était aussi de voir comment les... C'était sur l'attente du spectateur, comment lui, il est complètement perdu, puis après, en plus, elle a un trou de texte, donc elle refait le texte en entier pendant une demi-heure quand même. Puis quand on fait faire pipi, à imiter des animaux pour faire rire les gens, enfin, ça devient une espèce de cauchemar, de déliquescence. C'était plus... Qu'est-ce qui se cache derrière l'humour ? Parce que les humoristes, quand on les voit en interview, ils sont souvent tristes.
Bah, y a une détresse hein, chez l'humoriste.
Voilà. Il y avait ce truc-là qui m'intéressait, ouais, de montrer.
Oui, mais dis donc, t'as vu Angelica Lidl, t'en as pensé quoi, toi ?
Alors, Angelica Lidl, moi, je suis resté la première partie.
Ouais ? Oui. Mais, tu sais, j'ai mon copain le poulpe dedans.
Ah oui, oui, c'est vrai, il y en a plusieurs, d'ailleurs. C'est lequel ?
Bah, c'est celui qui se retrouve, tu vois, à toujours être frotté en bas avec le grand écart, là.
Ah oui, donc, oui, en contact direct avec la moule.
Ouais, c'est ça. D'accord. Et ben, je peux te dire que lui, il s'éclate, tu vois, on est attachés comme des imbéciles, là. De quoi on a l'air, quoi. Moi, je parle plusieurs langues, moi.
Ah bon ?
Bah ouais, c'est pour ça que j'ai pas besoin de lire les sous-titres pendant Angelica Lidl, ça va être hyper vite, je peux suivre.
Entiendo, entiendo.
Ouais, ouais.
Entiendes ?
Si, si.
Entiendes todo ?
Attends, excuse-moi.
Todo, todo del culo. Del culo de la madre et de padre, si.
Ça, tu le fais bien, toi ?
Eh oui. El culo de madre, de si la madre, si, el culo.
Non, je le fais bien.
Super imitation. C'est les corbeaux, donc les fameux corbeaux au début du spectacle qui parlent d'Angelica Lidl. C'est le soir d'ailleurs où moi j'ai vu le spectacle. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'Angelica Lidl, une femme qui est à Avignon là en ce moment, qui joue aussi d'une certaine manière avec les codes du seul en scène, parce qu'elle n'est jamais seule, mais de fait elle est vraiment au centre et c'est très trash et ultra physique. Est-ce que c'est quelqu'un que vous revendiquez peut-être comme un modèle ou du moins comme une référence, Laetitia Deutsch ?
Mais il y a quand même une grande beauté dans... Enfin, moi, j'ai découvert, hein, je ne connaissais pas, j'ai découvert l'autre soir, et il y a un tableau magnifique avec ces femmes blondes qui, je ne sais pas ce qu'elles font, qui se transforment en démons, là. C'est incroyable. Au-delà de revendiquer quelque chose, après, je ne sais pas, moralement, on me raconte des trucs qu'elle a dit après sur les attentats du 11 septembre, du 13 novembre, pardon. Et c'est soit assez étrange, mais visuellement, c'est une génie, cette femme. Elle a du génie, surtout, hein.
Puis surtout, Jonathan, je trouve que c'est pas forcément trash, justement, c'est très travaillé. Donc très c'est choisi. Ça qui sauve aussi la chose et qui la rend intéressante. Parce qu'elle travaille tout, la chorégraphie, la mise en espace, la lumière, le son. C'est un spectacle où l'ensemble des disciplines sont au service de son objet. Et je trouve que c'est là où ça devient intéressant. Ce qui est rare chez certains autres metteurs en scène. Et je dirais, en parlant de ça, que je suis un peu moins déçu de cette programmation du Festival d'Avignon. Dans le sens où on a fait quand même un petit pas en arrière concernant les formes atypiques. Et
tout le monde se lève dans le public, tout le monde se dirige vers Jonathan.
Et
lui saute à la gorge.
Et voilà, il m'égorge et ça fait partie de la performance. Mais c'est vrai que je trouve que là, il y a quelque chose à revoir sur le paysage culturel français, les jeunes créateurs, la jeune création, notamment la danse et ses formes qui ne sont pas dans les cases, qui sont représentées ici comme formes indisciplinaires. Je ne comprends toujours pas ce mot dans cette programmation. Donc je demanderai peut-être à Olivier de revoir un petit peu ces formulations.
Merci, un grand merci à tous les deux, Laetitia Doche et Jonathan Capdevielle. Le spectacle que vous créez dans le cadre des sujets à vif s'appelle Les Corps Vidés et se joue jusqu'au 14 juillet ici à Avignon. On espère qu'on pourra le voir ailleurs. La Grande Table, c'est terminé pour aujourd'hui sur France Culture à 17h dans les rencontres de Pétrarque en direct et en public à Montpellier. Aujourd'hui, on débat autour de la crise du progrès avec Cynthia Fleury, Michael Fossel et Jean-Noël Jeannonnet. Et ne manquez pas ce soir à 20h la fiction enregistrée en direct ici au musée. J'espère qu'il fera beau, ce sera Amuleto de Roberto Bolaño. Pardon. Nous, on se retrouve demain en direct dans la cour du musée Calvé où vous êtes conviés à entendre Julien Gosselin et Jean Bellorini parler de 2666 et Karamazov, leurs adaptations de romans. Puis, nous tirerons le portrait d'Anne-Cécile Van Dalem dont la pièce Tristesse est une heureuse découverte du festival.
Ah oui, il paraît que c'est super bien.
L'émission est préparée par Aïssa Touendoy, Anne-Catherine Lochard, Anna Baron, Lila Bozès, Lucide Pertu et Boris Pinot ici à Avignon. À la réalisation, Peyré Legras, équipe technique Georges Thau, Fabien Gosset, Benjamin Thuot et Alain Pied, chargée de production Sandrine Bréchaud. Vous pouvez comme toujours retrouver l'émission sur le site et la télécharger. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux.